Vous écoutez
RMC.
Bienvenue sur RMC et sur RMC Story, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Les pompiers redoutent le vent ce matin, que ce soit en Gironde ou dans le Var, où ils font face à deux gros incendies toujours ce matin. 2000 hectares de forêt en feu, 12 000 personnes évacuées, ça ce sont les infos de la nuit en Gironde pour ce feu tout près de la côte. Et vous verrez que les pompiers luttent toujours contre les flammes ce matin dans les montagnes du Var. Il y a du nouveau à Alès, après les menaces visant le maire. Souvenez-vous, on en a beaucoup parlé. Les narcotrafiquants démentent être à l'origine des intimidations. On va vous raconter. Et puis le début de la bagarre finale aujourd'hui sur le Tour de France avec la première des trois étapes de montagne dans les Alpes.
Il y a de l'inquiétude encore ce matin en Gironde.
En raison du feu qui a progressé à une vitesse folle durant la nuit sur la côte, dans la forêt de pins, juste au-dessus du bassin d'Arcachon. Le feu a pris précisément sur la commune de Somos avant de se propager au Porge. On est là dans une région très fréquentée par les touristes à cette époque de l'année. On est passé dans la nuit de quelques centaines à 2000 hectares brûlés et 12 000 personnes évacuées vers les communes aux alentours, comme à Lacanau. Vous êtes en direct ce matin pour RMC, Pierre Borges. Vous-même, vous avez passé la nuit avec tous ces vacanciers, ces habitants obligés de partir au beau milieu de la nuit dans des conditions parfois rocambolesques.
Mais oui, en fait, tout a commencé vers minuit. Les maires, comme ici à Lacanau où je me trouve, ont reçu un coup de fil des autorités. Ils vont devoir accueillir une première salve de 3000 vacanciers sur leur commune. Dans le même temps, à Lèche-Cap-Ferré, la gendarmerie fait du porte-à-porte pour ordonner l'évacuation de certaines habitations. Dans 8 centres de vacances, la sécurité s'en charge. Mais tout n'est pas si facile. Je vais vous donner l'exemple des vacanciers du village de la Génisse, à une quinzaine de kilomètres d'ici. La seule route qui amène à ce village est fermée à cause du feu, trop proche. Une file de près de 350 voitures a donc pris la direction de la plage, a roulé sur la piste cyclable, puis sur les chemins forestiers pour rejoindre Lacanau. Évacuation inédite, il faut le dire, pour ces touristes, mais tout s'est déroulé dans le calme. Cathy, les yeux fatigués, en a fait partie justement. Elle est arrivée ce matin dans la salle des fêtes de Lacanau. Écoutez.
On a été réveillés vers 3h du matin, on nous a demandé d'évacuer. Ouais, un petit peu flippant de devoir faire ces petites valises rapidement, même si le feu est loin. Donc on nous a fait passer par des chemins forestiers. Et puis voilà, on a été gentiment accueillis dans un gymnase. Tout va bien, nous sommes en sécurité.
Alors au moment où je vous parle, ce matin autour de moi, ils sont quand même assez peu à dormir. Tous se retrouvent en ce moment devant la machine à café mise à leur disposition. Au centre des discussions, évidemment, cette longue nuit à fuir le feu et à trouver un lieu de rassemblement. Au total, 9 communes ont ouvert leur salle des fêtes. Là où je me trouve, des vacanciers arrivent toujours. Ils sont pour l'instant un peu plus de 120 à dormir ici. Au total, 2500 personnes ont passé la nuit dans ces hébergements d'urgence.
Oui, puis alors quelle sera la suite? Parce que ce matin, les pompiers redoutent le retour du vent en Gironde. Pierre, le maire de Lacanau en parlait d'ailleurs un petit peu plus tôt ce matin sur RMC.
Oui, c'est clairement la bête noire des pompiers aujourd'hui. C'est déjà lui qui a poussé l'incendie vers le Cap Ferré et qui a attisé les flammes toute la nuit. L'inquiétude qui gagne désormais certains habitants, c'est justement cette presqu'île du Cap Ferré. Faudra-t-il l'évacuer? Dans ce cas, cela pourrait se faire par bateau. Un vrai défi en pleine période de vacances. Alors pour éviter tout sur-incendie, la préfète a interdit dès aujourd'hui les travaux en forêt toute la journée. D'autant que l'origine du feu pourrait être liée à des travaux de débroussaillage. Une origine humaine, donc, comme dans 90% des cas. Le procureur de Bordeaux a d'ailleurs indiqué durcir les sanctions contre les auteurs de départ de feu, même si c'est accidentel.
Pierre Borges, en direct donc de ce département de Gironde, précisément de Lacanau, où on le comprend bien, l'enjeu des prochaines heures sera de limiter le feu qui ne se propage pas jusqu'à cette presqu'île du Cap Ferré. En direct ce matin, les pompiers qui redoutent aussi la reprise du vent et parlent d'une journée critique à venir là dans les montagnes du Var, où 2500 hectares de forêt ont brûlé depuis 48 heures tout autour des villages de Cotignac, Corins, Montfort-sur-Argent aussi. Il y a 10 maisons qui ont brûlé depuis avant-hier, mais les pompiers ont réussi quand même à sauver deux sites religieux au milieu de la forêt. Alors le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, assure qu'on dispose de suffisamment de moyens aériens pour faire face à tous ces feux de forêt. Il le disait en réponse aux critiques émanant notamment de syndicats de pompiers. Il dit aussi que plus de 40 000 hectares de végétation ont brûlé depuis le début de l'année dans un contexte de sécheresse, de canicule à répétition aussi, 6 000 morts de plus que d'habitude pour celle du mois de juin, d'après les chiffres de Santé publique France. Mais un tel bilan là pour les incendies, eh bien c'est plus que toute l'année 2022, année dont on se souvient notamment pour les brasiers dans le sud-ouest de la France.
Et c'est dans ce contexte qu'une équipe internationale de scientifiques dévoile ce matin une étude sur les conséquences du changement climatique.
Alors ça va sûrement vous paraître évident et vous allez nous la résumer, cette étude, Lucas Lobert pour RMC. On a donc la confirmation que le changement climatique aggrave la sécheresse et en Europe, plus vite qu'ailleurs d'ailleurs.
Oui, c'est tout simplement le continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde. Les scientifiques du WWF ont comparé une sécheresse dans le monde actuel avec le même phénomène dans un climat sans réchauffement climatique. Résultat, la sécheresse ne résulte pas principalement de faibles précipitations, mais d'une atmosphère plus chaude qui entraîne un déficit accru des sols, expliquent les scientifiques. Les phénomènes comme les sécheresses et les vagues de chaleur deviennent donc plus fréquents, plus intenses, plus destructeurs. Et c'est un cercle vicieux. Si l'air devient de plus en plus chaud, il assèche les sols, la température monte encore et les sols s'assèchent davantage, expliquent les co-auteurs de l'étude. Un assèchement rapide qui rend également les sols plus propices aux feux de forêt. Un signal d'alarme impossible à ignorer, selon les scientifiques, indiquant une chose, notre planète est en surchauffe.
Alors malgré ça, eh bien, le deuxième syndicat agricole de France, la Coordination Rurale, appelle les agriculteurs à désobéir et à ne pas respecter les règles de restriction d'eau qui sont actuellement en vigueur dans presque tout le pays, en expliquant que la survie des exploitations agricoles est en jeu. Irriguez-vous pour vous sauver. Voilà ce que dit le syndicat.
Et le président de la Coordination Rurale sera avec nous juste après le journal. Il est 8h06 sur RMC. On reparle ce matin des menaces visant le maire d'Alès dans le Gard.
Exfiltré de chez lui par le RAID, ça c'était en début de semaine, car sous la menace des narcotrafiquants, eh bien, des personnes se revendiquant de la DZ Mafia publient une vidéo sidérante dans laquelle eh bien, elles assurent qu'elles n'ont rien à voir avec cette histoire. Sur place pour RMC, vous nous racontez, Maxime Clierusa.
Au premier plan, une table avec un drapeau algérien, un drap blanc ou des bandes de scotch noir ont été collées pour former l'inscription DZ. Au second plan, 6 personnes vêtues de noir cagoulées. L'une d'elles prend la parole et condamne les menaces et intimidations qui ont visé le maire d'Alès ces derniers jours. Un acte lâche et odieux, dit l'homme, qui nie toute implication de son organisation et poursuit. C'est un acte criminel qui nuit énormément à nos affaires. Alors cette vidéo émane-t-elle bien du groupe de narcotrafiquants marseillais ? Son authenticité est jugée crédible. Selon une source proche du dossier à BFM TV, une vidéo similaire a été diffusée par la DZ Mafia en octobre 2024. Le parquet national anti-criminalité organisée indique avoir été informé de l'existence de cette vidéo. Il poursuit ses investigations.
C'est l'affaire qui fait grand bruit cette semaine à Marseille, où commence aujourd'hui et jusqu'à dimanche un des plus gros festivals de l'été, le Delta Festival, qui a lieu sur les plages du Prado. 150 000 visiteurs sont attendus là jusqu'à dimanche. Sauf que bien des artistes de plus en plus annulent leur venue. Car on a appris récemment qu'un des fondateurs du festival était accusé de violence sexuelle, Antonin Audion.
Oui, le DJ Moziman, le groupe Acide Arabe ou encore Adèle Castillon ont annoncé se retirer. La chanteuse a déclaré sur ses réseaux sociaux « Je ne peux pas monter sur cette scène en restant fidèle à mes valeurs ». Des partenaires de longue date de l'événement ont également pris leur distance, évoquant des faits graves qui leur ont été rapportés. Des accusations de violence sexuelle que rejette le coprésident du festival mis en cause. Il est retiré de l'organisation, une commission d'enquête en interne est lancée, le Delta Festival 2026 est maintenu avec un programme adapté et l'organisation annonce reverser l'ensemble des bénéfices potentiels à la cause des violences sexistes et sexuelles. Pour l'heure, le parquet de Marseille indique qu'aucune plainte n'a été déposée.
Ça se précise et ça approche. C'est mardi que Zinedine Zidane deviendra officiellement nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football. On a la date et on sait que Zizou sera entouré d'un staff d'une vingtaine de personnes.
Et on vous attend d'ailleurs au 32-16. Est-ce que c'est l'homme de la situation ? Mardi, Zidane sélectionneur. Pour l'heure, on va parler de la Belgique. On se moque d'eux souvent en football. Mais en revanche, on peut quand même dire que c'est leur année sur le Tour de France.
Oui, parce que c'est Jasper Philipsen, encore un Belge, qui a gagné l'étape d'hier, qui arrivait à Voiron sur le Tour de France. Romain Asselin, vous couvrez la grande boucle cette année pour RMC. Pendant que nous, on attend toujours une victoire française.
6 victoires belges après celle de Jasper Philipsen hier à Voiron. Aucune française après 17 étapes. Johan, venu de Liège, à l'esprit chambreur.
Les Français, il y avait 20 ans, vous étiez là, mais maintenant, vous êtes plus. Maintenant, ce sont les Belges. Ça va revenir, voilà. On va faire une alliance, la France et la Belgique, contre Pogacar.
Mais quand on demande au directeur sportif de Remco Evenepoel si le Belge peut bousculer le maillot jaune d'ici l'arrivée finale à Paris.
Écoute, là, on va être sérieux, quoi.
Pachivilla n'y croit pas une seconde. Son coureur non plus, déjà bien content d'être à moins de 5 minutes de Pogacar au général.
Tadej est en route pour gagner un cinquième tour. C'est juste incroyable pour moi d'être assez proche de lui. C'est un grand pas en avant. Ça fait un moment que je n'avais pas évolué à ce niveau.
Surtout en haute montagne où personne ne l'attendait à un tel niveau, Zach Dempster, l'un des patrons du Belge.
Il a changé d'entraîneur, puis d'équipe. Il est reparti de zéro pour essayer de progresser petit à petit avec une bonne stratégie. Je pense qu'on voit aujourd'hui l'une des meilleures versions de Remco. Et c'est génial.
Déjà vainqueur de deux deux étapes, Remco Evenepoel espère brandir un troisième bouquet d'ici dimanche, en plus d'un podium qui lui tend les bras.
Alors c'est le début de la grande bagarre, ça commence aujourd'hui dans les Alpes avec la première des trois étapes de montagne entre Voiron et Orcières-Merlette, 185 km, 5 difficultés au programme, 3900 mètres de dénivelé, c'est beaucoup en troisième semaine, arrivé au sommet dans la station de ski donc. Je rappelle que le français Paul Sexas est quatrième du classement général à 20 secondes du podium, 20 petites secondes à aller chercher.
À partir de 14h, l'intégral tour sur RMC, vous ne manquerez rien de ce Tour de France. C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h10, on va retourner au 32-16, c'est Cédric qui est avec nous depuis les Bouches-du-Rhône. Bonjour Cédric.
Et bonjour, comment allez-vous?
Très bien, et vous-même?
Impeccable, on reprend des vacances, mais bon, ça va.
Profitez de vos vacances. On apprend que Zinedine Zidane, et d'ailleurs c'est RMC qui a révélé cette information hier, sera bien sélectionneur dès mardi. Ça y est, il a signé son contrat. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une bonne chose. Franchement, après Didier Deschamps, je pense que c'est une bonne chose parce que je trouve que c'était deux joueurs en équipe de France qui étaient super. Et j'ai remarqué que souvent, les milieux de terrain font des bonnes, entre guillemets, de bons entraîneurs quoi, derrière.
Vous lui faites confiance pour prendre la suite?
Oui, largement.
C'est un autre style quand même, Zidane, par rapport à Deschamps.
C'est un autre style, ça va changer justement. Donc on va voir un peu la différence. Mais je pense que le style de jeu va s'approprier aussi à la suite Deschamps. Il va faire une mixité de deux, je pense.
Eh ben très bien, bah vous saluez cette nomination, on va évidemment en reparler, on suivra tout ça évidemment sur RMC la semaine prochaine. Zidane qui a signé son contrat, qui sera sélectionneur mardi. Merci Cédric, bonnes vacances alors.
Si.
À bientôt, bonne journée, à bientôt sur RMC 8h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, l'économie avec Manu Le Chip, c'est le retour du plafonnement des prix dans les stations Total. Et puis cet appel à la désobéissance, on en parlait dans le journal, lancé par la coordination rurale. Le syndicat agricole appelle les agriculteurs à ne pas respecter les restrictions d'eau et à continuer d'arroser malgré la sécheresse. Son président Bertrand Venteau assume, il nous explique pourquoi. Dans un instant, c'est son parti pris sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h15 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La France brûle, on vous le raconte en direct depuis ce matin. La France connaît une sécheresse historique qui menace aussi le monde agricole et les récoltes, au point que la coordination rurale appelle les agriculteurs à ne pas respecter les restrictions d'eau prononcées par les préfectures dans de nombreux départements. Bonjour Bertrand Venteau.
Bonjour.
Vous êtes le président de la coordination rurale, vous êtes aussi éleveur de vaches limousines en Haute-Vienne. Cet appel, c'est vous qui le lancez. Irriguez-vous pour vous sauver. C'est un appel à la désobéissance. En fait, ça y est, vous déclarez la guerre de l'eau?
Écoutez, aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'on va manquer de fourrage et on va manquer de production agricole de façon drastique. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est quand même pour nous de sauver les cultures qui peuvent être utilisées dans les élevages et puis qu'on puisse avoir du revenu. Parce qu'en fait, si on n'irrigue pas, il n'y aura pas de revenu, il n'y aura pas de nourriture pour les élevages concernés, en particulier de ruminants. Donc voilà, simplement pour rappeler quelque chose, c'est que sur les fuites du réseau d'eau potable à l'année au niveau de la France, c'est à peu près 4 milliards de mètres cubes, et l'irrigation en France, c'est à peu près 3,5 milliards. Donc, il y a encore moyen de sauver des cultures. Oui, on appelle la désobéissance. Il faut aussi savoir que l'eau d'irrigation n'est pas la même que l'eau potable, pour être très clair. Donc, aujourd'hui, celui qui n'irrigue pas, qui est en dessous du sud de la Loire, il n'aura pas de récolte de culture printemps, c'est-à-dire principalement.
Est-ce qu'on peut dire un mot, pardon, Bertrand Venteau, est-ce qu'on peut dire un mot de ces restrictions? Où est-ce qu'elles sont prononcées et quelles sont les cultures qui sont clairement menacées par ces restrictions d'irrigation?
Très clairement, toutes les cultures de printemps ou les cultures qui ont pu être mises en place après des cultures d'hiver, derrière des blés ou des orges. Donc voilà, c'est un moyen d'avoir de la nourriture pour les élevages et c'est un moyen aussi de sauver le résultat des céréaliers qui font des cultures de printemps. Pour être très clair, cette année, il y a eu, en termes de cultures de printemps qui sont principalement les maïs et tournesol, il y a eu moins 10% de la seulement qui a été donc ensemencé, ça se trouve à la PAC. Donc je peux vous dire qu'il va y avoir un gros manque de céréales et de maïs à la sortie de l'été.
Alors, c'est ce qui est très clair, c'est qu'on comprend que vous craignez des pertes. D'ailleurs, on en parle très souvent sur RMC. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec cet appel, malgré tout, vous accréditez l'idée que les agriculteurs sont égoïstes, que les agriculteurs s'accaparent les ressources en eau, qui sont les critiques qu'on entend beaucoup, sans penser aux autres usages, sans penser qu'il y a un risque aussi que les rivières s'assèchent?
Écoutez, aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on est en train de payer 30 à 40 ans de blocage pour faire des stockages d'eau supplémentaires, des volumes d'eau supplémentaires qui ont été des contraintes réglementaires poussées par la sphère écologiste qui a infiltré en fait tous les lieux de décision. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on sait particulièrement qu'il va repleuvoir à un moment ou à un autre, c'est surtout d'anticiper la suite et de créer des volumes d'eau supplémentaires pour pouvoir irriguer nos cultures, abreuver nos animaux, mais aussi qu'il y ait la ressource en eau potable et que ça puisse servir en termes de développement économique à l'industrie. Aujourd'hui, on paye le manque d'anticipation de ce qui se passe et le bocage qu'il y a eu. Je prendrai un exemple, je prendrai deux exemples. Sivens et Sainte-Soline. Voilà, c'est vite résumé.
Les bassines.
Bah, pas que les bassines. Sivens, c'était un lac collinaire, un multi-usage qui devrait être fait. Il a été bloqué par les zadistes et la sphère écologiste. Si Sivens avait été fait, vous sauviez, je sais pas, à peu près 300 ou 400 agriculteurs dans le Tarn. Donc voilà, aujourd'hui, on paye simplement le manque d'anticipation et de courage politique à dire il faut stocker des volumes d'eau supplémentaires.
Alors ça fait réagir à votre appel, cet appel à la désobéissance que vous lancez fait réagir. On a reçu pas mal d'auditeurs et de messages ce matin, notamment sur le WhatsApp RMC, Victor.
Beaucoup de soutien, mais aussi certains qui vous reprochent une vision court terme. Julien et Christian. Julien d'abord qui nous dit quand ils auront tué les nappes phréatiques, il faudra une nouvelle fois distribuer des aides. Et puis Christian qui nous dit si on continue et qu'on aggrave le changement climatique, ces vaches ne survivront pas et les éleveurs, de toute façon, devront s'adapter.
Et il y a y compris d'ailleurs Bertrand Vantot, des agriculteurs hein, qui ne vous suivent pas là-dessus et qui disent faut pas se tirer non plus une balle dans le pied. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Je leur dis simplement que d'abord les nappes phréatiques c'est pas la seule ressource en eau pour l'agriculture et que malgré tout suivant les secteurs les nappes phréatiques il y en a encore qui tiennent et qui peuvent permettre d'irriguer. D'ailleurs il y a des restrictions sur les nappes phréatiques qui ont des volumes qui peuvent être utilisés pour l'irrigation et je leur réponds ce que je vous ai dit juste avant c'est qu'en fait aujourd'hui le vrai sujet c'est qu'on n'a pas anticipé qu'il fallait stocker plus d'eau dans des lacs et des retenues collinéaires ou même dans des bassines d'ailleurs hein, si on peut les appeler comme ça ce sont des réserves de substitution.
Vous avez obtenu dans la nouvelle loi des mesures pour justement assouplir les stockages d'eau. Ça ne suffit pas.
Tant mieux. Mais le temps qu'elle se réalise et le temps que la loi et que les décrets de la loi soient placés et sur la loi, faut pas s'en plus mentir. Il reste le conflit constitutionnel à passer, donc ça peut être encore un blocage. Donc là, la loi, ok, elle est passée. Ça se trouve, les arrêtés et les décrets ne seront pas appliqués avant un an, 18 mois, ou peut être bloqué par le Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, on est face à une situation d'urgence. L'urgence, c'est de pouvoir sauver un maximum de paysans pour qu'ils puissent vendre, effectivement, les cultures qu'ils doivent vendre. Et penser aussi que les éleveurs en vont en profiter.
Et donc, cet appel à la désobéissance. Merci que vous assumez ce matin en direct sur RMC, Bertrand Vantot. Merci d'avoir été en direct avec nous. Président de la coordination rurale. Il est 8h20 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, le chiffre Total Énergie annonce ce matin un quasiment doublement de ses profits au printemps dans ce contexte de prix élevés dans les stations-service.
Oui, effectivement, Total vient d'annoncer 6 milliards de dollars de résultats au deuxième trimestre 2026. C'est beaucoup plus que les 3,6 milliards enregistrés au deuxième trimestre 2025. Alors, des profits qui sont dus évidemment à la hausse des cours du pétrole depuis le début de la guerre dans le Golfe Persique, même si cette guerre a perturbé la production et la livraison de brut, ce qui a en partie réduit les résultats sur la partie production. Mais par contre, il y a effectivement une forte augmentation des marges de raffinage. Et donc, ces bons résultats, vous imaginez bien, ne vont pas manquer de relancer le débat. Est-ce qu'il faut taxer ces super profits de Total, voire est-ce qu'il faut nationaliser Total Énergie, comme ça a déjà été proposé.
C'est donc peut-être pour ça, pour faire passer la pilule, peut-être que Total annonce opportunément le retour du plafonnement des prix des carburants dans cette station.
En tout cas, le calendrier est favorable à Total Energy, puisque le plafonnement, on rappelle, hein, c'est 1,99 le litre de sans-plomb 95, 2,15 le litre de diesel. Or, la barre des 1,99 pour le sans-plomb 95 n'a été franchie qu'au cours des derniers jours. Et puis, effectivement, les prévisions ne sont pas réjouissantes. Hein. On a un site comme Roule, par exemple, qui fait des projections et qui s'attend à ce que le prix du diesel soit à 2,40 fin août et 2,25 pour le sans-plomb 95. Et puis, finalement, qui se plaindra de ce plafonnement, à part, à juste titre d'ailleurs, les stations indépendantes, mais c'est pas les automobilistes. Hein. Il faut rappeler que Total a fait quand même plus pour leur pouvoir d'achat que l'État, puisque ces mesures de plafonnement vont coûter sans doute entre 300 et 400 millions d'euros à Total, qui a les moyens quand même de se les payer. L'État, bah, ça l'arrange bien aussi parce que du coup, il n'a pas eu à baisser les taxes. Et puis, bah, est-ce qu'il faut vraiment critiquer Total pour faire des profits aussi élevés? Il faut rappeler que la France a besoin d'un champion mondial de l'énergie. C'est aussi important pour notre souveraineté que l'indépendance de la banque.
Donc, ne nous taxez pas. Vous voyez bien qu'on vous redistribue. C'est un peu le message de Total. On termine justement sur les prix de l'énergie, comme tous les jours. Bon, bah, on est au plus haut.
Alors justement, le gazole, bah, on est à 2,15€ au plus haut depuis deux mois. Le samplon 95, 2,03€, là aussi au plus haut depuis deux mois. Le pétrole, ça grimpe, 96 dollars le baril. Et puis encore une fois, hein, tous les jours, je vous alerte sur le gaz. Eh bien, le gaz a battu hier un record puisque il n'a jamais été aussi cher depuis le début de la crise. On est maintenant à presque 63€ le mégawattheure. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu depuis le début de cette guerre.
Merci Emmanuel Le Chypre. À demain, 8h23. Tout de suite, on se détend un peu avec le meilleur d'Arnaud Demanche.
Apolline, vous n'êtes pas mon amie, vous le savez. Apolline, vous êtes un peu ma maman.
Ah.
Oui, vous êtes un peu. Car vous êtes la maman de RMC, vous êtes la maman de tous les auditeurs, ce qui fait quand même 4 millions d'enfants tous les matins. Voilà, Élise, c'est ma tante. Enfin, on est une grande famille. Et les mamans le savent. En ce moment, c'est la période des kermesses et des spectacles de fin d'année. Alors,
oui,
vous avez vu à Montreuil, il y a un spectacle qui fait polémique depuis 3 jours. Parce qu'on voit sur une vidéo des gamins de maternelle qui portent des tenues militaires, des lunettes de soleil et des pistolets en plastique. Et ils dansent sur la chanson du groupe Triangle des Bermudes qui fait charger, charger. Vous avez vu ça, le ministre de l'Éducation nationale a réagi et ils sont mignons comme
cheveux.
Tout. On dirait une petite junte militaire, on dirait le cartel de Blédina. En même temps, avec le scandale du périscolaire parisien, c'est pas une mauvaise idée de former.
Voilà, c'est ça. Comme vous l'avez vécu,
c'est comme ça. Voilà. Bon, après, sous les t-shirts, on voit des tenues peace and love. Et après, ils retirent les treillis, c'est pour la paix.
Ouais.
Après. Ils hurlent et ils courent partout en réclamant des bonbons. Et ça, c'est une métaphore de la colline du crack.
Bien sûr.
Bref, ça a changé quoi, les spectacles pour enfants. Le seul truc bien dans les kermesses, c'est les gâteaux. Ça, Mathieu Béliard, il adore faire des gâteaux pour les gamins.
Monsieur Béliard, vous avez fait quoi comme gâteau?
C'est pas un gâteau, d'accord? C'est une déconstruction tellurique de la tarte au citron avec son écrin d'agrumes biodynamique et son émulsion de pamplemousse gélifiée en apesanteur.
T'as l'air bon.
Y a pas plutôt des Kinder Pingouis?
Tu manges! Chargez! Chargez! Chargez!
Astronaute Arnaud de la Station Spatiale Internationale ont reçu ce week-end l'ordre de se préparer à une éventuelle évacuation en raison d'une fuite d'air.
Les cons, ils ont pas pris Thomas Pesquet. Il t'aurait réparé ça en deux secondes. Il est surdoué, parfait, beau et sympa et qui joue du saxophone. Il aurait bouché ça avec un chewing-gum. En disant, laissez, je m'occupe de tout. Je vais réparer dehors. Non, mais j'y vais sans combinaison, il y en a pour 3 minutes. Je peux le faire sans respirer par moins 1000 degrés, je m'en fous. Quel connard. À CNews, on a commenté l'événement. Xenia Fedorova, il y a donc une fuite d'air et c'est dans le module russe de la Station Spatiale Internationale. Non. Alors, si, je vous jure, c'est le rapport officiel, c'est dans le module russe. Non. Tenez, buvez ce thé, Pascal. Oh, mais le sucre, là, il est vert fluo. Il a l'air un peu chargé, 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 chargé.
Arnaud Demange, que vous retrouvez quand vous voulez en podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Dans un instant, la météo de Charlène Villemer, encore chaude et avec du vent, ce qui fait craindre encore pour les incendies dans le sud. On surveille bien sûr ce qui se passe en Gironde. On y sera dès le début du journal de 8h30. L'angoisse autour du bassin d'Arcachon avec cet incendie très impressionnant. Et puis Stéphanie Rist, la ministre de la Santé sur RMC ce matin, après l'annonce de ce chiffre, près de 6000 morts de la canicule. Aurait-il pu être évité? Les réponses de la ministre. Et vous intervenez bien sûr, vous êtes avec nous au 32-16. A tout de suite sur RMC. Vous êtes bien sur RMC, il est presque 8h30.
RMC, Apolline Matin.
Tout de suite un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. L'inquiétude est grande ce matin en Gironde et dans le Var, deux départements touchés par des incendies. Incendies qui ont brûlé plus de 2000 hectares chacun et qui ne sont toujours pas fixés. RMC est sur place ce matin. Le choc hier en Essonne, la découverte de 12 enfants dans une voiture pour dissimuler une crèche clandestine. Et l'air Zidane est sur le point de commencer sa nomination à la tête des Bleus, devrait officiellement avoir lieu mardi prochain. Une nomination très attendue par les supporters.
D'abord, l'angoisse pour les habitants du bassin d'Arcachon.
Un incendie d'une violence exceptionnelle a parcouru 2000 hectares en moins de 24 heures dans le secteur de la forêt des Landes, lieu ravagé il y a 4 ans par les flammes. 12 000 vacanciers, habitants, 8 campings ont dû être évacués ces dernières heures entre Lacanau et le Cap Ferré. État des lieux ce matin du maire de Lacanau, Laurent Pérondet, invité d'Apolline Matin sur RMC.
Le problème, c'est qu'on risque d'avoir 50 km/h de vent dans la journée, avec des chaleurs à 35 degrés, un taux d'humidité très très faible. Donc, on a peur de ces reprises, de la violence qui était tout à fait extraordinaire. Les images parlent d'elles-mêmes. Il faudrait que le feu soit fixé à cette limite-là, parce qu'après, c'est la presqu'île du bassin du Cap Ferré qui serait en danger. Donc, on est tous très inquiets, mais on va observer attentivement comment ça se passe aujourd'hui.
Plus de 12 500 départs de feu depuis le début de l'année. 44 000 hectares ont déjà brûlé partout en France, chiffre du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes. Le ministre qui a proposé hier aux familles des deux pompiers décédés mardi en Gironde la tenue d'un hommage national. Et Pierre Bourgès, on en sait un peu plus aujourd'hui sur le profil de ces caporaux.
Oui, de professionnels exemplaires qui abordaient chaque journée avec une passion et un sourire contagieux. Voilà la description faite par une de leurs collègues sur les réseaux sociaux. Ils vivaient pompiers, dormaient pompiers, ils avaient l'amour du métier, ajoute un autre collègue que nous avons pu joindre. Pour les deux hommes, c'était le métier d'une vie. Cela faisait 17 ans qu'Anthony Berthomme était dans les casernes de Gironde. Wilfried Schmitter, lui, a d'abord été sapeur-pompier de Paris avant d'arriver dans le département. Ce fan de surf s'était aussi engagé dans certains événements caritatifs de sa commune. C'est un vrai drame pour Sébastien Défaut, président de la Fédération des sapeurs-pompiers professionnels de Gironde.
C'est une date qu'on se souviendra. Je vous confirme que c'est quand même très pesant et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. C'est d'autant plus traumatisant quand ça touche notre propre corps départemental. Forcément, c'est décuplé quand ça nous touche au niveau local. Oui.
Une cagnotte a été ouverte par l'Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Médard-en-Jalles pour soutenir les familles des deux victimes.
Et ça brûle toujours dans le Var. L'incendie ne progresse plus, mais n'est toujours pas fixé dans le secteur de Cotignac. Et Anna Jaujard, vous êtes ce matin en direct de Montfort-sur-Argent, village qui a pour le moment été épargné par les flammes. Mais l'inquiétude est grande aujourd'hui, la météo s'annonce défavorable.
Oui, ce qui inquiète ce matin les autorités et les pompiers, c'est le vent qui va se lever. Le Mistral va souffler fort, des rafales jusqu'à 60 km/h sont attendues dans l'après-midi. Un vent qui peut réactiver des foyers et en créer d'autres ailleurs. Du côté de Montfort-sur-Argence, où je me trouve, la commune a été épargnée jusqu'à présent par l'incendie. Mais pour combien de temps, s'interroge le maire Philippe Chuyen, au regard des conditions météo de la journée?
La manière dont sont positionnés les foyers, ça pousse vers chez nous, quoi. On a évacué, ouais, le premier jour, on avait trois quartiers avec, qui correspondent à peu près une centaine de maisons, 150 maisons. Il y a pas mal de gens qui ont réintégré leur domicile malgré les interdictions. Bon, on a appelé à la plus grande vigilance quand même. On les a prévenus que, bon, il fallait se préparer à une réévacuation au besoin.
Et pour l'instant, la journée d'hier et cette nuit ont permis aux pompiers de continuer à contenir l'incendie qui ne progresse plus malgré plusieurs réactivations. Plus de 1000 pompiers étaient encore mobilisés hier pour travailler sur les lisières. Vous savez, ce sont les frontières du feu qui représentent ici une trentaine de kilomètres.
Anna Jaujard, notre correspondante RMC en direct de Montfort-sur-Argent dans le Var. Près de 6000 morts de plus que d'habitude en juin lors de la canicule. Chiffre révélé par Santé publique France qui évoque une surmortalité inédite. Ce deuxième épisode de chaleur de l'été a provoqué une surmortalité jamais vue depuis la canicule de 2003. Et toutes les classes d'âge sont concernées. Barbara Butch dépose plainte contre LFI. Plainte pour provocation à la haine et à la violence, annonce son avocate 5 jours après l'interruption de son concert à Grenoble. Par des insoumis et militants pro-palestiniens. Et Total a doublé son bénéfice net au deuxième trimestre, une hausse de 67%. Le groupe profite de la hausse des prix du carburant.
Il est 8h34 sur RMC. On en vient à ce choc, la découverte d'une crèche clandestine dans l'Essonne.
12 enfants ont été enfermés jeudi dernier dans une voiture, dont un bébé de 4 mois à hier par 2 assistantes maternelles. Et Rachel Sadodine, elles sont aujourd'hui soupçonnées d'avoir mis leur vie en danger pour dissimuler une activité illégale lors d'un contrôle.
Installée dans un pavillon propriété d'une assistante maternelle agréée de 41 ans, cette crèche peut en principe accueillir 4 enfants et pas un de plus, car la seconde nounou, âgée elle de 48 ans, s'est vue retirer son agrément en 2021. Mais la situation que vont découvrir les agents de la protection maternelle infantile accompagnés par la police municipale et tout autre, le maire d'hier, Nicolas Dupont-Aignan.
Il y a eu la volonté de nier pour dissimuler une activité illégale. Elle les a mis dans le garage, enfermés dans une voiture. 12 enfants dans une voiture, depuis une heure, avec des bébés.
Insiste système de dissimulation bien rodé qui laisse les voisins sous le choc. Préférant rester anonyme, cet habitant est installé dans une maison attenante à la crèche et pourtant...
À aucun moment, on a pu constater plus de 7 ou 8 enfants dans le jardin. On voyait très souvent deux adultes qui s'occupaient des enfants, alors qu'ils s'occupaient pas forcément beaucoup. De là, imaginer qu'il y ait 17 enfants, c'était assez difficile.
Les deux assistantes maternelles ont été placées sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs dans l'attente de leur procès qui aura lieu le 22 septembre prochain.
8h35 et ce nouveau rebondissement dans l'affaire Epstein.
Le rabatteur présumé de femmes pour le pédocriminel américain Jeffrey Epstein, Daniel Syad, a été retrouvé mort à son domicile dans les Hauts-de-Seine. Une enquête pour déterminer les causes de sa mort a été ouverte par le parquet de Nanterre. L'homme qui clamait son innocence n'avait jamais été entendu par les enquêteurs, alors que selon son avocate, Menia Arab Tigrine, il espérait pouvoir s'expliquer.
C'est rare hein, pour un avocat d'être sollicité par un homme qui veut être confronté à la police. Et il était persuadé que le seul moyen pour lui d'arriver à prouver son innocence, c'était par une vérité judiciaire. Il ne voyageait plus. Certains prennent la décision de fuir. Lui, il avait décidé de se tenir complètement à la disposition de la justice. J'ai essayé tout ce que j'ai pu essayer pour qu'au moins... il puisse s'exprimer devant autre chose qu'une caméra de télévision. Il est mort et il n'aura toujours pas été entendu.
Et Zinedine Zidane, à 8h36 sur RMC. Le compte à rebours est lancé avant son arrivée à la tête des Bleus.
La FFF devrait l'officialiser mardi prochain. Une arrivée très attendue par les supporters.
Je pense que ça sera pas mal et qui pourra nous emmener loin.
Sincèrement, je sais pas si Zidane il pourra apporter quelque chose en plus. Ça va être intéressant pour Zidane d'apporter sa touche à lui.
En tant que fan, je suis très content. Après, je me dis que ça peut être à double tranchant. C'est une légende du sport en France, mais est-ce qu'il sera niveau entraîneur avec ce que Didier Deschamps a fait ? Ça, je sais pas encore.
18e étape du Tour de France. Aujourd'hui, le peloton attaque les Alpes entre Voiron et Orcières, longue de 185 km. Intégral Tour dès 14h sur RMC.
Les courses, c'est sur l'hippodrome de Vichy aujourd'hui.
Le pronostic de Dimitri Blanc-L'Œil, son favori, le 4 Spanish Prince, son outsider et le 6.
Clément Gouitz pour le journal. Il est 8h38 et vous êtes bien sûr RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, on revient sur ces chiffres de la surmortalité liée à la canicule. Près de 6000 décès excédentaires sur les deux dernières semaines du mois de juin. On va vous détailler tous les chiffres. Et la ministre de la Santé vient répondre. Bonjour Stéphanie Rist.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On se retrouve dans un instant sur RMC et sur RMC Story. Et si vous nous écoutez, vous avez envie d'interpeller la ministre, de réagir. Peut-être êtes-vous soignant, peut-être connaissez-vous un proche qui a succombé à la canicule. On en parle dans un instant avec la ministre et avec vous. Donc au 32-16 et on lit vos messages au 06-12 424 424. C'est sur WhatsApp. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Vous êtes sur RMC, RMC Story, il est 8h41. Et c'est le choix de la rédaction ce matin. On s'arrête sur les morts de la canicule. Près de 6000 décès supplémentaires enregistrés entre le 17 juin et le 2 juillet. Donc en deux semaines, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, est avec nous ce matin pour répondre dans un instant. D'abord, on va regarder ces chiffres de plus près avec vous. Louise Salé, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Cet excès de mortalité, il concerne de façon inédite toutes les classes d'âge, même si les deux tiers ont plus de 75 ans.
Oui, comme Louisette, 93 ans, morte déshydratée à Sceaux, en région parisienne. Son appartement n'avait pas de volet. Il y faisait 34 degrés le lundi 22 juin. Une température mesurée par Odile, une voisine qui rendait souvent visite à Louisette, comme ce dimanche 28 juin.
J'appelle, j'ai pas de réponse. J'ai réussi à forcer la porte, en fait. J'ai réussi à écarteler l'entrebâilleur. Et puis, j'ai retrouvé Louisette étendue par terre, complètement inconsciente. Et elle s'est éteinte le lundi à l'heure du déjeuner. Ça aurait pu être évité, en fait, ne serait-ce que mettre ce qu'il fallait devant les fenêtres. C'est terrible.
Louisette est partie à l'hôpital comme près de la moitié des personnes décédées fin juin, tandis qu'un tiers sont mortes à domicile.
Et c'est d'ailleurs la principale différence, hein, avec la canicule de 2003. Il y a eu davantage de décès à domicile qu'en EHPAD.
Oui, depuis 2003, les EHPAD disposent de salles climatisées. Les victimes de cette canicule sont surtout des personnes âgées qui vivaient seules chez elles et qui cumulaient plusieurs pathologies, d'après Jean-François Bouscarin, vice-président de la Fédération nationale des infirmiers.
La question aujourd'hui collective qu'on peut se poser, c'est comment on repère toutes ces personnes.
Et il regrette de ne pas pouvoir consulter les registres communaux des personnes vulnérables.
La mairie ne peut pas me donner, moi, infirmier de territoire, le nom des personnes qui sont toutes seules pour des questions de coordonnées qu'on doit préserver. Donc la mairie, effectivement, benoîtement téléphone d'ailleurs pour demander aux papis, aux mamies s'ils vont bien. Mais il faut aller les voir.
Rendre visite pendant la canicule à ces patients isolés et à risque permettrait peut-être d'éviter, selon lui, une partie de ces milliers de morts.
Des milliers de corps aussi, malheureusement, dont il a fallu s'occuper en très peu de temps.
Oui, la particularité de cette canicule, c'est son intensité concentrée sur quelques jours. Plus de la moitié des décès en excès ont été constatés entre le 25 et le 27 juin. Et en Île-de-France, notamment, puisque la région enregistre une surmortalité de plus de 80%. Véronique Bertrand dirige une agence de pompes funèbres à Paris.
On a eu à peu près une quinzaine de décès, en fait, sur 2-3 jours. Habituellement, sur un week-end, on va être à 4 appels. Mais ça a été surtout des difficultés au niveau des chambres funéraires où il n'y avait pas de place en fait à Paris. On est obligé de laisser des corps sur place dans les domiciles avec une chaleur qui était intenable et donc les corps se sont abîmés en fait au domicile.
Elle regrette que des conteneurs réfrigérés supplémentaires n'aient pas été mis à disposition assez rapidement par les autorités.
Merci à Louise Salé du service Société d'RMC. Bonjour Stéphanie Rist.
Bonjour Sébastien.
Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes la ministre de la Santé. On va revenir dans un instant sur cette mortalité inédite. Est-ce que ces morts auraient pu être évitées? Quels enseignements vous en tirez, vous? Vos réponses dans un tout petit instant. Et les auditeurs peuvent nous rejoindre bien sûr au 3216 ou par WhatsApp au 06 12 424 424. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h45 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La ministre de la Santé est l'invité d'RMC ce matin. Rebonjour Stéphanie Rist. Merci de nous réserver votre première prise de parole après la publication de ces chiffres de surmortalité enregistrés pendant la canicule du mois de juin. Près de 6000 décès supplémentaires. On a détaillé tous ces chiffres. Est-ce que ces morts supplémentaires, c'est un échec du système de santé français?
Alors déjà, j'ai une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un proche pendant cette canicule. Et quand on est ministre de la Santé, dès qu'il y a même un décès supplémentaire dont on se dit qu'on aurait peut-être pu l'éviter, c'est jamais une satisfaction, bien évidemment. Ce qu'on peut dire à ce jour, avec les données que nous avons et qui ont été bien expliquées, donc il y a eu une surmortalité, notamment des personnes isolées à domicile. C'est ce qu'on s'est assez vite rendu compte que le système de santé tenait, que en EHPAD, l'apprentissage de la canicule de 2003 avait été fait, mais qu'on a un sujet de solitude, en fait, je dirais, de personnes.
On a oublié ces personnes isolées comme Louisette,
on n'avait pas suffisamment de moyens de les repérer, de les détecter, de les accompagner. C'est évident, puisqu'il y a une surmortalité de ces personnes, notamment en Île-de-France, avec un excès de surmortalité qui est très haut
plus 80%,
en Île-de-France.
Ça a presque doublé. Le nombre de morts en Île-de-France a presque doublé en 15 jours.
Oui, le nombre de morts attendus a presque doublé en Île-de-France, et notamment chez ces personnes qui sont seules et isolées. C'est pour ça que très vite, avec le Premier ministre, on a mis, et de façon très interministérielle, puisqu'il ne s'agit pas évidemment que du système de santé pour ces personnes qui sont isolées, un travail sur un plan ORSEC renforcé pour prévenir mieux ces décès à domicile, pour repérer mieux, pour mieux les accompagner dans des salles et des endroits où ils pourront être dans des endroits rafraîchis.
Pour être très clair, vous vous êtes rendu compte que les listes que les communes doivent tenir à jour n'étaient pas à jour. On n'avait pas la liste des personnes fragiles à aller voir pour s'assurer qu'elles aillent bien.
Alors c'est variable déjà selon les communes. On peut renforcer évidemment, et je le redis puisque l'été n'est pas fini, je redis aux personnes isolées qu'elles peuvent se signaler auprès de leur mairie pour être dépistées, je dirais, sur ces registres. mettre et être accompagné si des chaleurs devaient revenir. Et puis, c'est tout le travail qu'on a mis en place pour qu'il y ait une meilleure coordination entre tous les acteurs sur le terrain pour que ces personnes soient mieux accompagnées. Parce qu'il ne suffit pas de les repérer, il faut aussi les accompagner dans des salles rafraîchies. Donc, il y a tout un travail de cartographie que nous avons fait, de savoir où est-ce qu'il y a des salles disponibles et comment on accompagne ces plus fragiles. Je pense aussi aux personnes les plus fragiles, les personnes en situation de handicap, qu'il faudra aider à accompagner dans ces pièces rafraîchies.
En fait, on n'était pas prêts. L'hôpital, vous le disiez, a tenu, mais on était avec Mathias Vargon, l'urgentiste, tout à l'heure, qui nous disait oui, ça a tenu, mais avec des chambres où il faisait 34, parce qu'on n'avait pas de climatiseur. Ça a tenu, on n'était pas prêts. Comment vous expliquez qu'on n'ait pas vu venir ce type de situation, alors que des alertes sur la hausse des températures, on en entend finalement parler tous les ans?
Alors, quand on compare avec la canicule de 2003, on voit des nettes avancées dans l'organisation de l'État, dans la vigilance des professionnels de santé, la sensibilisation, la formation, ce qui a permis de diminuer le nombre de morts qu'on aurait pu s'attendre si on n'avait rien appris depuis 2003. Après, c'est vrai que tous les hôpitaux n'ont pas encore été reconstruits, qu'ils ne sont pas tous rafraîchis ou climatisés. C'est pour ça que nous avons fait tout un travail d'urgence de climatiseurs d'appoint.
On en est où? Vous avez un chiffre du nombre de climatiseurs qui a été livré?
La promesse tenue du Premier ministre, la promesse est tenue puisque les 30 000 climatiseurs sont en train d'arriver tous les jours et seront là d'ici fin juillet.
D'ici à la fin du mois, donc d'ici à la fin de la semaine prochaine. Si la canicule revient en août,
les 30 000 climatiseurs seront soit dans les chambres, soit dans les salles de soins d'ici la semaine prochaine.
On le disait, 5 700 morts un peu plus en deux semaines. Est-ce que ce chiffre va encore augmenter? Est-ce qu'on peut avoir des décès a posteriori, des organismes fatigués, la chaleur qui continue, ça va continuer de provoquer des décès?
Alors ce qu'on voit cette année, c'est qu'on a une succession aussi de chaleurs importantes et d'épisodes de canicule. Donc il sera difficile peut-être de faire le partage entre le décès liés à une canicule ou à celle d'avant, puisqu'on sait qu'il peut y avoir des décès retardés, notamment chez les gens qui ont des maladies chroniques. Mais on le voit tous, même en étant en bonne santé, on se sent tous fatigués par ces chaleurs. Et donc, évidemment, quand vous avez des maladies chroniques ou des maladies graves, eh ben, évidemment, vous pouvez avoir un retentissement de ces chaleurs un petit peu espacées.
Stéphanie Ries, je voudrais qu'on dise un mot de la situation de nos finances et du budget de la santé, puisque le Premier ministre s'est exprimé dans Paris Match cette semaine en disant que l'assurance maladie était une piste importante d'économie. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire des économies sur les soins et notamment sur les patients? Est-ce que la question des franchises médicales est bien sur la table? Est-ce que les franchises médicales que chaque patient paye pour chaque boîte de médicaments achetée, pour chaque visite chez le médecin, est-ce que le plafond de ces franchises médicales qui est aujourd'hui à 100 euros, va augmenter, va doubler, comme l'affirme le journal Les Échos ce matin?
Je voudrais dire deux choses. La première, et nous venons d'en parler, nous devons continuer à investir pour notre hôpital, à investir pour l'accès aux soins et pour avoir des médicaments qui restent les médicaments les plus efficaces. La deuxième chose que je voudrais dire, et pour être très très clair, le débat sur les franchises a eu lieu l'année dernière. Ce débat a été tranché par le Premier ministre. Il n'y a pas d'augmentation des franchises. Nous gelons le montant de ces franchises.
1 euro par boîte de médicaments.
Cela ne bougera pas. Ce que nous faisons évoluer, c'est le plafond annuel. C'est-à-dire que depuis 20 ans, les Français, tous les Français, s'ils dépassent un nombre de consultations ou un nombre de boîtes de médicaments, payent aujourd'hui, s'ils sont au maximum, 100 euros par an. C'est un plafond. Ils ne peuvent pas avoir à payer plus. Ce que nous faisons, c'est que nous doublons ce plafond qui n'a pas évolué depuis 20 ans. Mais encore une fois, je le redis.
Donc on ira jusqu'à 200 euros par an et par patient.
Alors, il faut savoir qu'en moyenne, quand vous êtes un patient avec des maladies, donc si vous êtes quelqu'un qui a une maladie chronique, en moyenne c'est 78 euros par an actuellement. Donc si on double, on peut estimer qu'il sera plutôt à 150 qu'à 200 euros. Ce que je dis, c'est d'une part, nous ne touchons pas aux franchises. D'autre part, vous savez qu'il y a 18 millions de Français qui ne payent pas ces plafonds puisqu'ils sont soit fragiles financièrement, ils ont la complémentaire santé solidaire, soit ils sont, c'est des femmes enceintes, soit c'est des mineurs. Donc 18 millions de Français ne sont pas concernés.
Mais tous les autres, mais ça veut dire que vous allez finalement faire des économies en demander des efforts à des gens qui ont besoin de soins, qui sont malades, qui ont besoin de médicaments. Plus on consomme des médicaments, plus on va payer des franchises médicales.
Ça correspond à 100 boîtes de médicaments par an. pour avoir à payer ce plafond.
Des gens qui ont des traitements à l'année.
En dessous du plafond. Donc, il peut y avoir les gens, mais il peut aussi y avoir un effet de regarder dans son placard s'il reste des médicaments. Je suis très alertée. D'ailleurs, nous travaillons à des mesures sur le gaspillage de boîtes de médicaments. Nous savons, et nous le voyons, et les infirmiers à domicile m'en parlent régulièrement, nous avons trop de boîtes de médicaments dans nos pharmacies qui ne sont pas utilisées. C'est une petite mesure qui permet de regarder aussi si on a sa boîte de médicaments dans sa pharmacie avant d'aller reprendre une boîte.
Ce ne sont pas les plus fragiles qui vont payer.
Ce que je dis, les plus fragiles financièrement, les femmes enceintes, les mineurs, ne sont pas concernés. Je voudrais le redire. Nous ne touchons pas aux franchises. Nous gelons le montant des franchises. Ce débat a été tranché, il a eu lieu l'année dernière. Ce que nous faisons, c'est faire évoluer un plafond qui n'a pas évolué depuis 20 ans. Mais pourquoi nous le faisons ?
Ce sera effectif
parce que
quand,
nous venons de le dire. Nous devons continuer à investir dans notre hôpital. Nous avons, depuis 2017, mis 85 milliards de plus pour notre système de santé, nos financements, notre investissement. Mais nous devons continuer cet investissement pour l'hôpital, cet investissement pour l'accès aux soins, je pense aux maisons France Santé, et cet investissement pour avoir encore les médicaments les plus efficaces. Je ne veux pas être la ministre de la Santé qui, parce qu'elle n'aura pas pris des mesures, fera que dans 20 ans, nous n'aurons plus des médicaments les plus efficaces.
Ce sera effectif quand ?
Alors, cette mesure réglementaire, c'est un décret qui peut être effectif dès l'année 2026.
Il sera pris quand, ce décret ?
Il y a d'autres mesures, parce que je voudrais aussi
dire... On a très peu de temps, pardon. Est-ce que ce décret sera pris dès cet été ?
Ce décret peut être pris, oui, dès cet été, oui.
Il est en train d'être rédigé.
Exactement.
Merci d'être venu préciser tout cela. Stéphanie Riss, ministre de la Santé sur RMC ce matin, qui nous annonce donc le doublement du plafond des franchises médicales. Chaque patient pourra désormais payer jusqu'à 200 euros par an de franchise médicale. Il est 8h55. Dans un instant, c'est les grandes gueules avec Olivier
Salut,
Truchot.
Sébastien, bonjour,
Olivier.
Bonjour à tous. La France qui continue de faire face aux incendies, notamment dans le Var et en Gironde. Et on a le procureur de la République de Bordeaux qui tape du poing sur la table. Il en a marre des jeteurs de mégots. Donc il a décidé d'être beaucoup plus ferme. Désormais, ils seront placés en garde à vue si on arrive à les interpeller. Ils seront poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui. Donc on va au-delà de la simple contravention. Est-ce qu'il a raison, le procureur de Bordeaux ? On va en discuter avec les grandes gueules à partir de 9h sur RMC et RMC Story.
À tout de suite. Très bonne journée sur RMC.